ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait que... sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid. Il fait
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières, aux autres formes de création curieuses. Et aujourd'hui, on va parler de la radio. Une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la deuxième fois qu'on parle de la radio du 10e art, je crois on dit, dans notre émission. Nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Poulain. Et on va parler de... Alors j'ai mis sur ma petite feuille 40 ans des radios libres. ans, mais c'est pas tout à fait exact. C'est les 40 ans de la fin du monopole d'État, parce que d'une part, les radios libres ont commencé avant le 10 mai 1981, et d'autre part, on va vraiment parler de la fin du monopole d'État. Moi, ça me fascine, cette histoire-là. Je signale, alors, on va parler des radios libres en général, pas spécialement de Radio Libertaire, bien que ce soit aussi les 40 ans de Radio Libertaire, mais ces 40 ans de Radio Libertaire ont été vraiment très magnifiquement célébrés mercredi soir dans l'émission Femmes Libres. Je vous recommande vraiment d'aller écouter cette émission superbe de 2 heures, avec plein d'entretiens, plein d'archives également, et vous saurez tout de la création de Radio Libertaire. Mais nous, on va aborder le sujet plus largement. On a commencé l'émission avec Comme à la radio. Alors, je disais à Sébastien en antenne, moi j'aime bien ce morceau parce que souvent, je trouve que sur les radios maintenant qui occupent la bande FM, je ne sais plus si on dit libre, on verra ça avec notre invité qui tique. Moi aussi. On a adopté un ton de parole qui est les gens parlent comme à la radio. Ce qui n'est pas encore le cas, qui je pense ne sera jamais le cas sur notre antenne, sur Radio Libertaire. Nous, on parle comme en vrai, je crois, avec tous les défauts que ça a, et tant mieux. Que dire d'autre? Ah oui, donc alors, on ne va pas nous diffuser d'archives, on va se contenter de passer quelques morceaux musicaux en rapport plus ou moins lointain avec la radio, et histoire de reprendre notre souffle et de vous laisser vous reposer un peu les oreilles. Sébastien, avant tout, peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais?
Alors, ce que je fais, donc, je suis, on va dire, enseignant et chercheur. Voilà, j'ai un laboratoire qui s'appelle le MICA à Bordeaux-Montaigne, spécialisé dans la communication, les arts, voilà, l'information. J'enseigne la communication politique, la communication, en gros, des organisations, donc entreprises, associations. Je fais aussi un cours sur l'analyse des dispositifs médiatiques. Voilà, donc en gros, je travaille sur la communication politique, communication des organisations, les médias, analyse des médias. Et puis après, j'ai une spécialité de chercheur, beaucoup sur la radio en général, disons la radio numérique, l'histoire de la radio, les radios libres, les radios associatives, voilà, en gros. Mmh.
Qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce média radiophonique?
Alors, déjà, j'avais l'impression que ce n'était pas beaucoup étudié, alors que j'aimais la radio, voilà, j'écoutais déjà beaucoup depuis les années 90, voilà, j'ai découvert via le collège, enfin peut-être un peu via mes parents aussi, mais disons que ça devient plus intime dans les années 90 avec les fameuses radios, justement on va en parler, radio commerciale, Fun Radio, oui. Skyrock, tout ça, où on discutait de choses pour les jeunes, la sexualité, etc., et puis la musique aussi qui était importante, et puis donc voilà, la radio n'était pas, j'avais l'impression que la radio n'était pas étudiée autant que d'autres médias, on va dire, autant que la télévision, ouais. Autant que la presse. C'est toujours le cas d'ailleurs, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est toujours, il y a une domination de l'étude des autres médias quand même, et avec aujourd'hui l'Internet qui écrase tout. Ouais, le numérique, voilà, donc.
Ouais. Alors, entrons dans le sujet. Cette année, on fête les 100 ans de la radio.
Oui.
Il y a ça. Bon, on va pas refaire l'histoire, c'est pas vraiment le sujet de l'émission, mais je voudrais savoir quand même quel est le cheminement, pour quelles raisons finalement la radiodiffusion était, avant 1981, un monopole d'État. Est-ce que ça a toujours été et pourquoi on en est arrivé là?
On pourrait presque dire que ça l'a toujours été, enfin... Disons qu'il y a quand même eu une grande tolérance même pour les radios privées, notamment dans les années 20, les années 30. Donc voilà, il y a une période de 10-20 ans où pour de l'expérimentation, mais c'était vraiment une tolérance. En fait, l'État avait un objectif, c'était quand même que les gens achètent des radios quand même, pour que la radio d'État fonctionne. Oui. Il fallait peut-être un peu de la diversité, et donc l'État quand même a toléré la création de radios, surtout que certaines radios étaient financées par des collectivités locales, parfois voilà en région. Parce que c'est des radios qui, c'était une radio par ville, par grande ville, radio à Toulouse, radio, voilà, une radio dans des grandes, c'était pas comme aujourd'hui avec 10 radios, hein, c'était, voilà, une dizaine de radios à l'époque, hein, donc, dans toute la France. Donc voilà, donc cette période, il y a eu des radios, voilà, tolérées. C'est pareil après la guerre. Où il y a eu des radios tolérées, mais qui émettaient normalement, en principe, depuis l'étranger, à la périphérie de la France. Donc c'est pour ça qu'on les appelle, on les appelait radios périphériques. Parfois on les appelle encore les radios périphériques. Sauf RMC, qui a eu une autorisation parce que, bah, à Monte Carlo, vous savez, c'est difficile d'émettre, d'avoir un émetteur en hauteur. Ouais. Et donc autour c'est la France. Et donc il y a eu des autorisations. Enfin voilà, il y a eu une tolérance pour que l'émetteur soit en France. Pour RMC, parce que sinon il était voilà depuis la Sarre, depuis Andorre, voilà, il y a des émetteurs qui émettaient depuis très haut, très haut, depuis très loin, et on pouvait balayer toute la, enfin une partie de la France, c'est-à-dire il y avait des radios qui émettaient depuis l'est, hein, depuis le Luxembourg, radio RTL, c'est ça l'origine, Europe 1 aussi c'était l'est, et puis après il y avait les radios du sud, donc Sud Radio. Et Radio Andorre, ouais. Et puis RMC depuis Monaco, voilà, qui était censé être à Monaco. Mais après, il y avait des studios à Paris. Tout était à Paris. Hein. C'était,
ouais, d'accord.
Donc c'était une hypocrisie
mais
totale.
C'est ça, ouais, ouais. Alors, parce que moi, j'ai compris en lisant ton bouquin avec Thierry Lefebvre, oui. Là, que je n'avais jamais compris le terme périphérique.
Ah oui, oui.
Effectivement,
c'est ça. La périphérie de la France.
Donc ce qui permettait de rentrer dans la loi sur le monopole d'État. Parce que c'était diffusé de l'extérieur.
Mais oui, elles émettaient bien sur le territoire français, donc ouais. C'est une hypocrisie. Voilà, mais elles émettaient depuis ailleurs. Donc c'était un peu comme Radio Moscou ou toutes les radios étrangères qui elles-mêmes émettaient. Voilà, chaque pays avec sa radio et elles émettaient de façon internationale. On pouvait les recevoir en France, Radio Moscou. Donc c'était un peu le même principe. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontières. C'est les ondes, c'est difficile de créer une frontière.
Ah, ben c'est pas ici que tu vas nous dire qu'il y a des frontières, effectivement. Sur Radio Libertaire, on croit pas qu'il y a des frontières.
Ah ben voilà, juridiquement, il y avait voilà, des frontières, mais géographiquement, les ondes, elles passent partout. Donc il n'y a pas de frontières. Voilà.
Évidemment. Alors, le terme de radio libre apparaît quand et qu'est-ce qui désigne et est-ce qui fait l'unanimité?
Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours existé et c'est vrai qu'il y a eu un combat pour ce terme qui existe toujours, on pourrait dire. Mmh. Pour ce terme, c'est vrai que, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de radio pirate. Et notamment du fait des pirates anglaises, pirates dans la Manche, qui étaient des radios offshore, qui étaient elles-mêmes aussi des radios périphériques en quelque sorte, puisqu'elles émettaient depuis l'eau.
Depuis le bateau, oui.
Voilà, depuis des bateaux, donc offshore, en dehors du port, quoi. Et donc voilà, à ce moment-là, on parlait de radios pirates, parce qu'effectivement, elles émettaient vers le pays, vers l'Angleterre, vers la Belgique, vers les Pays-Bas, et puis aussi vers la France. On pouvait les recevoir dans le nord, et peut-être au-delà du nord, je ne sais pas si on pouvait les recevoir jusqu'à Paris, mais peut-être, elles avaient des émetteurs puissants, c'était pas la FM. Ouais. C'était pas la FM. Ça, c'est intéressant pour en reparler. Mais, et donc voilà, donc Radio Pirate qui était important comme terme. Et puis donc c'est un peu resté dans le vocabulaire quand les premières émissions ont eu lieu, voilà, en 75, ensuite surtout 77. Mais il y a eu tout d'un coup un combat sémantique dans cette période-là pour parler de radio libre parce qu'on voulait libérer, la radio, l'audiovisuel qui était en effet monopolisé par l'État, soi-disant. Et donc voilà, donc il y a eu une bataille sémantique et c'est vrai que vu le nombre de radios qui ont émis et vu le soutien aussi de la presse. Le combat symbolique a été un peu gagné, voilà, par ce terme. C'était une victoire des radios et de s'appeler libre. Voilà, après c'est un terme. Après l'État n'a pas reconnu ce terme. Ah, jamais reconnu ce terme.
C'est clair. Et alors tu parlais de les radios offshore là en Angleterre ou aux Pays-Bas.
Oui.
Elles n'émettaient pas sur la FM alors.
Parce qu'il y a plusieurs ondes. Il y a des ondes plus ou moins. Il y a les ondes courtes, les ondes très courtes, les ondes longues. Voilà, il y a différents types d'ondes. Et voilà, et plus les ondes sont longues, plus elles vont loin.
Ouais.
Donc, c'est pareil que je parlais de Radio Moscou tout à l'heure. Bah, pour qu'une onde aille très loin, il faut qu'elle soit très ample dans l'espace. Parce que la FM, quand on a un émetteur FM, il émet à quelques kilomètres, mais c'est pas si loin que ça. Hein. Surtout que y a la concurrence des autres ondes FM, des autres radios. Et donc, voilà. Mais par contre, la qualité de la FM, c'est que c'est du son un peu du son meilleur.
Oui,
bien
sûr, ouais, ouais.
Plus les ondes sont courtes. Ouais.
Et alors, ces expériences en Angleterre, elles ont influencé les radios libres en France?
Bah, on était au courant, forcément. Ça faisait quand même la une. Enfin, voilà, ça faisait les médias en parlaient, les journaux en parlaient. Après, je ne vais pas dire que ça faisait la une du journal tous les jours, mais c'est vrai que voilà, les gens qui s'intéressaient à la radio étaient forcément au courant aussi en France. Donc, les passionnés de radio, ils se sont dit, bah oui, pourquoi pas nous? Donc, pourquoi pas en France? Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas eu trop de radios pirates qui émettaient depuis des bateaux. On a eu des mini-périphériques qui ont émis depuis l'Italie. Depuis l'Italie vers la Côte d'Azur l'été, par exemple,
ah, oui.
On a eu ça, quelques petites, des radios saisonnières en quelque sorte, parce qu'on savait que, bah, évidemment, la Méditerranée, il y a plein de monde qui y va l'été, et donc il y a plein de gens qui ont leur poste de radio, leur transistor, parce qu'on pouvait mettre le transistor sur la plage.
Bah, oui.
Et oui, ça existait depuis quelques années, depuis les années 50, et donc on avait le transistor, et donc on pouvait écouter. Et donc, parce qu'en Italie. En Italie, la Cour constitutionnelle avait dit que le monopole de la RAI, c'est la RAI en Italie, le monopole, était illégal, inconstitutionnel.
D'accord.
Ce qui fait que depuis le milieu des années 70, il y avait plein de radios. Il y avait une folie de radio.
Ah oui,
ils avaient de l'avance sur nous.
Je voulais que tu nous parles de ça aussi, du précédent en Italie. Parce que pour moi,
oui.
Il y a deux choses. Il y a l'Angleterre et les bateaux,
oui,
et puis
voilà.
Il y a l'Italie aussi.
Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qui est le plus proche de nous. Après, c'est vrai que les autres pays avaient beaucoup moins de liberté encore à l'Est. Et donc oui, en Italie, il y a une profusion de radio. Alors, on connaît Radio Alice,
oui.
qui est restée un peu dans l'histoire. Mais voilà, il y avait d'autres radios populaires, il y avait d'autres, quelques radios, enfin, plein de radios par ville, et puis déjà des radios commerciales, des radios associatives, des radios...
Oui.
Il n'y avait pas trop de statut, c'était un peu la désorganisation, on va dire. Et donc, ce fait qu'il était en effet possible d'émettre depuis l'Italie, là, depuis la côte...
Oui.
Hein, c'est très proche. Donc, avec un émetteur, on pouvait un peu diffuser là, vers Nice, vers Menton, vers assez facilement depuis la montagne. Quoi.
Alors, les offshore anglais, c'est plutôt dans les années 60.
Oui.
L'Italie, c'est plutôt...
Ça continue un peu après,
ouais,
mais oui.
Continue. Et l'Italie, plutôt les années
70. 70, ouais, 70.
Ouais. Et est-ce qu'il y avait... parce qu'il y avait un climat politique en Italie à cette époque. Est-ce que c'est des radios militantes?
Oui, beaucoup. Après, il y avait de tout. Hein. Comme je disais, il y avait aussi des radios commerciales très, très vite. Mais en effet, notamment Radio Alice, qui était très, très militante et qui a soutenu le mouvement autonome. Donc, en effet, il y avait des partis qui, déjà, voulaient avoir leur radio. Après, il y avait aussi une diversité des radios, un peu comme aujourd'hui, des radios associatives, des radios locales. Hein, mais c'est vrai que ça aussi, ça a été une grande influence pour la France, parce qu'on se disait, pourquoi eux, pourquoi pas nous?
Oui, bien sûr.
Tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une industrie de la radio qui se met en place, c'est-à-dire tout le matériel.
Ah bah oui.
Parce qu'ici, il n'y avait pas de...
D'émetteurs et tout ça, ouais.
Ben non, c'était pas possible de se fournir dans un magasin.
Ah oui.
Et donc, on faisait venir du matériel depuis l'Italie. On prenait le train ou on commandait, on allait en voiture, récupérer un émetteur, récupérer du matériel qui n'était pas possible d'acheter ni en Angleterre,
Il me semble même avoir lu que certains techniciens italiens venaient prêter main forte.
Ouais. Tout à fait.
Ben, on va en parler. Je propose qu'on écoute qu'on fasse une pause musicale avec, on va aller en Allemagne. Alors, je sais pas s'il y avait des radios libres, pirates en Allemagne.
Après, il y a l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, mais je connais pas bien l'Allemagne.
Alors, on va écouter Kraftwerk et le morceau s'intitule Antenna.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée aujourd'hui aux 40 ans de la fin du monopole d'État sur la radiodiffusion. On est bien d'accord, Sébastien, c'est de ça qu'on parle.
Oui.
Alors, quelles ont été en France les premières tentatives dans les années 70, juste avant la libération des ondes, quelles ont été les premières tentatives en France?
Alors, on peut donner peut-être un exemple, l'exemple de Radio Campus à Lille, qui arrive encore avant 77, voilà, 69, donc après 68, on pourrait parler d'un peu de l'influence de mai 68,
sur,
voilà, une libération un peu de la parole quand même, mai 68, et donc, voilà, tout d'un coup, les jeunes aimeraient bien avoir le droit de parler aussi à la radio. Après, les radios d'État vont recruter beaucoup de jeunes aussi, vont essayer de recruter, parce qu'ils voient quand même qu'il y a une dynamique. Et donc voilà, donc Radio Campus qui émet, voilà, un peu loin du centre de Lille. Donc bon, c'est pas très grave. C'est au sein d'un nouveau campus universitaire. Donc c'est voilà, ça fait pas trop peur. Voilà, c'est de l'expérimentation. C'est ça diffuse pas tant que ça. Donc voilà, c'est une expérience qui va durer et elle existe toujours, cette radio. Oui. Et il y a un réseau de Radio Campus qui existe dans toute la France, voilà, dans les villes universitaires. Après, bon, on a des premières radios, voilà, en 75, des radios militantes dès le départ. Voilà, il y a un double combat à chaque fois. Il y a un combat pour libérer les ondes et puis un combat un peu, par exemple, écologiste.
Oui. Après,
voilà, des radios comme Radioactive.
Bien sûr.
Contre le nucléaire, voilà, des radios écologistes, la radio, une des premières radios, c'est Radio Verte aussi, voilà, 77. Donc il y a toujours eu, enfin il y a dans les toutes premières radios. Après ça va se diversifier, hein, ça sera pas que des radios militantes, mais quand même il y a eu beaucoup de, et celles qui ont marqué un peu l'histoire, c'est beaucoup des radios militantes. On y reviendra tout à l'heure peut-être. Et donc après voilà, une diversité de radios. Il y a des radios qui veulent passer des gens qui veulent passer de la musique, qui n'aiment pas France Musique, qui ne veulent pas que de la musique classique, ou la musique des yéyés d'Europe 1, voilà, qui ont envie de goûter, de diffuser des radios qu'ils aiment, par exemple les radios anglaises, enfin les musiques anglaises.
Ah oui.
Voilà.
Ouais, ça a été une motivation. Alors là, je défends un peu notre chapelle à nous, qui sommes une émission qui parle de musique. Oui, c'était une motivation, la musique.
Ouais, dès le départ, Radio Libertaire, de la musique, de la chanson française, de la musique française.
Ouais, c'est vrai, oui.
Face aux musiques commerciales qui arrivaient aussi, mais
est toujours le cas chez nous. Oui, oui.
Mais oui, c'est ça.
D'autres expériences significatives, selon toi?
D'autres expériences significatives. Voilà, des radios qui donnent la parole à tout le monde. Alors là, il y a Thierry Lefebvre qui a sorti un livre sur Radio 93. Alors c'est pareil, c'était une radio qui voulait donner la voix à tout le monde. Voilà, aux gens qui n'ont pas une voix, pas une voix d'habitude, qui n'ont pas la voix au chapitre, qui ne sont pas invités dans les radios. Et puis, France Inter, c'était pas la radio qui parlait, qui incitait à faire des manifestations. Hein, donc, par exemple, de Jean Ducarroir, notamment Jean Ducarroir, qui a joué un grand rôle. Donc ça, c'est le dernier livre qui est sorti là, récemment.
Ouais. Alors oui, bien sûr, je voulais en parler. C'est le livre de Thierry Lefebvre, Jean Ducarroir.
L'aventurier des ondes.
L'aventurier des ondes, ouais, excellent livre. Alors là, on a aussi vraiment un déroulé des événements.
Hein, aussi.
Autour d'une personnalité. Et oui. Tu connaissais, toi, ce personnage-là?
Parce que Thierry en avait déjà parlé dans son précédent livre, dans la bataille des radios libres. Et c'était un acteur dont il parlait beaucoup, mais il n'avait pas eu beaucoup d'informations, il n'avait pas pu le rencontrer.
Ouais.
Et parce qu'il est décédé en 2003.
Ouais.
Donc quand même assez jeune, il a eu une maladie foudroyante, assez rapide. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il voyait que cet acteur jouait un rôle important. Il a créé notamment une fédération.
On va y revenir. Il était dans tous les bons coups, en gros.
Il a passé en fait 6 ans de sa vie à faire que ça. C'est-à-dire 77 jusqu'à 82, il a fait que ça. 81, 82, il a fait il passait son temps. Il donnait aussi un peu de cours à l'université. Il faisait des petits boulots, mais sinon c'est vrai qu'il était dans tous les combats et donc il a participé à des radios importantes, donc Radio Riposte dont on parlera. Radio Paris 80, et donc il avait Radio 93. Et donc voilà, il a pu militer, il a fait de la radio devant la Maison de la Santé, devant Sainte-Anne, voilà, des mix, c'était un peu des sortes de podcasts à l'époque, c'était, vous voyez, c'était juste une soirée, c'était juste faire des coups, c'était des tracts en fait, il y avait l'idée de faire un tract radiophonique, voilà, des mettre ce soir-là, d'embêter un peu l'État, d'embêter les institutions. Voilà, il a été aussi, voilà, sur les combats sur le nucléaire aussi. Enfin, lui-même n'était pas un militant écologiste. Par contre, voilà, c'était un militant des médias en général.
Après, il était assez politisé, je crois qu'il était
marxiste, trotskiste. Oui.
Alors justement, quels étaient les profils des personnes engagées dans ce combat? Est-ce que c'était des passionnés de technique, ou alors des militants politiques, ou encore une fois des fans de musique? Est-ce que
un peu de tout, mais c'est vrai qu'il y a une dimension militante forcément quand vous achetez du matériel, quand vous essayez d'émettre alors que c'est interdit, vous pouvez faire de la prison, vous pouvez être condamné en justice. Lui, il a été condamné deux fois, Jean du Carroir. Il a été poursuivi trois fois. Il a été amnistié deux fois.
Ah oui, c'est bien.
Et la troisième fois qu'il a été attaqué, il a poursuivi. En fait, c'était fini. En fait, donc Mitterrand a mis fin au monopole, ce qui fait qu'il a pas la poursuite s'est arrêtée. Mais sinon, donc il y avait quand même des risques. Et puis, il fallait s'y connaître en technique, effectivement. Donc même n'importe quel militant, s'il voulait créer sa radio, il fallait. Parfois, on était un peu seul quand même. Hein. D'ailleurs, on le voit on l'écoute dans l'émission sur Radio Libertaire. Ils n'étaient pas très nombreux au début. Ouais. La première équipe, trois, quatre personnes. C'était ça la difficulté. Donc souvent, ils diffusaient des informations dans Libération ou dans des journaux pour dire on a besoin d'aide, on veut fonder une radio.
Et alors tiens, tu parlais de faire des coups. J'aimerais bien que tu nous racontes l'épisode de cette émission du 24 octobre 77 chez Simone de Beauvoir, avec les techniciens cachés dans la salle de bain.
L'émetteur dans la salle de bain, et en effet, oui, ils ont installé, voilà, un studio. C'était l'époque. En fait, les intellectuels ont beaucoup soutenu, certains intellectuels, dont Sartre, Félix Guattari. Félix Guattari a été très actif, son fils a fait de la radio aussi, il a soutenu son fils. Félix Guattari a financé aussi, quand il y avait des problèmes de financement, la FNRL, quand il y avait des... Parce que c'est pareil, il y avait besoin d'argent. À l'époque, il n'y avait aucun soutien comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un fonds de soutien, enfin, on en reparlera, un fonds de soutien national, un fonds étatique. Et donc, il y avait des difficultés à trouver du matériel, et aussi à trouver de l'argent, et aussi à émettre, parce qu'il y avait, la TDF au départ, puis ça a changé, mais bon, il y avait du brouillage. Et donc, ils essayaient de trouver des lieux un peu sécurisés, un peu où on savait que la police ne va pas rentrer chez Simone de Beauvoir, quoi. Alors que si vous êtes un peu dans un lieu, chez vous tout seul, bon, la police, elle aura pas trop de difficultés à venir chez vous. Donc, il y avait toute une stratégie, en fait, pour trouver un lieu pour mettre une antenne. Il fallait qu'elle soit haute, c'est pareil. Radio Libertaire était plutôt en hauteur, à Montmartre. Ouais. Donc il y avait toute une stratégie pour émettre au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire au moment où, par exemple, il y a moins de brouillage, donc la nuit, par exemple, brouillage. Les salariés, ils n'ont pas envie de travailler la nuit, ils n'ont pas forcément envie de brouiller, franchement. Après, en interne, ils n'étaient pas forcément contents d'avoir à faire du brouillage, mais en tout cas, à TDF, par exemple, les syndicats, à un moment, refusaient de brouiller. Les syndicats ont joué un rôle très important dans la bataille. Et donc toute une stratégie à mettre en place pour avoir le matériel, pour émettre au bon moment, pour pas se faire brouiller. Des fois, l'émission durait que 15 minutes parce que par triangulation, on pouvait savoir d'où venaient les ondes, et hop, après, on envoyait la sauce pour le bruit strident, pour ne plus entendre.
L'histoire de l'anecdote chez Simone de Beauvoir, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, l'émission était uniquement à l'intention des quelques journalistes qui se trouvaient présents.
Il n'y a pas eu
d'émission, en fait, en réalité.
Mais c'est pas...
Ils ont fait croire aux journalistes, mais...
C'est vrai, ouais.
C'est ça, l'histoire.
Ce qui comptait aussi, c'est toujours un peu dans cette stratégie, c'est que ce qui comptait, c'est qu'on pense que ça existe.
Voilà.
Et ça, c'était pareil avec Radio Verte. C'est-à-dire que l'émetteur était dans le studio. Et en fait, dans un studio de télévision... Et donc, on pouvait écouter la radio dans le studio de télévision, donc on pouvait brancher. Mais en fait, l'émetteur, il était à 5 mètres, enfin, ouais, il était juste ça, à côté. Ouais. Mais sinon, c'était un peu le même coup. Donc, ce qui comptait, c'était de faire des coups médiatiques, de montrer qu'on réussissait à émettre. C'était ça, la victoire, plutôt que de... Parce que c'était impossible d'émettre pendant une heure, deux heures, trois heures. Enfin, c'était très compliqué. Ou alors la nuit, voilà. Mais souvent, voilà, la police pouvait débarquer chez vous et prendre tout le matériel. La loi autorisait à saisir tout le matériel et même à le détruire. Ouais. Et donc, ce qui pouvait annihiler une radio du jour au lendemain. Enfin, il y a plein de radios qui n'ont pas réussi à se relancer à cause de saisie du matériel.
Alors, il y a eu beaucoup de coopération, hein, en lisant le livre de Thierry Lefebvre, là, sur Jean Ducarrois, on voit bien que les radios s'entraident, se prêtent des émetteurs et des choses comme ça.
Tout à fait. Ouais. Et Jean Ducarrois a profité comme ça, tout à fait, parce que le but, c'était de parvenir à émettre, que le combat se maintienne, qu'on continue à montrer qu'on était capable d'émettre face au pouvoir, face à toute la puissance de l'État, face à la police. Le but, c'était qu'il y ait une continuité, quoi, d'avoir des concurrents pour toutes les radios existantes et de montrer que ça continue et qu'on lâchera pas l'affaire pour parler. Et donc voilà. Donc le but, c'était que les médias en parlent, quoi, de montrer que ça existait, quoi.
Et là, c'est sûr que chez Simone de Beauvoir, ils en ont parlé.
Oui, ça rend crédible tout de suite.
Et là, tu as évoqué ces noms là précédemment. Je voudrais savoir. Il y avait deux associations de radio libre à l'époque, l'ALO et la FNRL. Qu'est-ce qui les différenciait ?
Alors, donc, la FNRL, Fédération Nationale des Radios Libres, et l'ALO, l'Association pour la Libération des Ondes. Alors, il y a eu une bataille, ça c'est une bataille interne, forcément, on se dispute aussi entre militants. On a beau avoir un combat un peu similaire, c'est-à-dire la fin du monopole, ça, elles partagent ça, elles ont tout ça, enfin, tous les groupements ont en commun ça, dans tous les militants ont en commun ça, de pouvoir émettre librement. Mais après, qu'est-ce qu'on va émettre? Comment on va émettre? C'est ça la question. Et donc là, par exemple, l'ALO a un objectif de faire une radio privée, locale, mais assez professionnelle, c'est-à-dire... Ouais. Plus ou moins, voilà, une radio commerciale, une radio avec de la publicité, voilà, proche de ça. En tout cas, voilà, une radio professionnelle, une radio stable, de montrer que la radio, c'est sérieux, que c'est pas des zigotos qui s'amusent, mais que c'est du sérieux. Alors que la FNRL, il y a une dimension bien plus militante, quoi, dès l'origine. Et là, le but, voilà, c'est un combat et c'est de donner la parole aux gens et il n'y a pas forcément un objectif de professionnalisation. Le financement peut se faire via des subventions éventuellement, via des dons des militants, des dons des bénévoles, voilà, que c'est pas du tout les mêmes orientations. Et à cause de ça, ils ont du mal à s'unir, et après ils ont du mal à négocier avec l'État à cause de ça aussi, avec le gouvernement, c'est compliqué.
Oui. Alors, il y a une expérience très importante. Est-ce que tu as d'autres anecdotes avant de parler
je sais pas.
De Lorraine Cœur d'Acier
Ça reviendra, il y en a plein.
Il y en a plein, oui. Oui, bah alors parlons de Lorraine Cœur d'Acier. Ça a été lancé en 79. Et est-ce que tu peux nous en parler et nous dire si cette expérience a eu un impact, j'imagine que oui, sur le mouvement des radios libres?
Bah, c'est un impact. Alors, pour le coup, si on peut la situer entre. Elle est un peu entre les deux, puisque c'est à la fois une radio militante. Et c'est une radio qui se donne un objectif un peu professionnel quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'elle émet en permanence. Elle a le soutien de la localité, du maire. Beaucoup de soutiens locaux. Parce que c'est vrai que sinon, très rapidement, elle pouvait s'éteindre. Hein,
je crois qu'ils émettent de la mairie, d'ailleurs.
Mais c'est ça. L'émetteur est en plein centre de la ville, avec un émetteur puissant, soutenu par la CGT.
Alors peut-être faut resituer. C'est l'histoire de la sidérurgie.
Allons-y.
Donc il y a un plan de licenciement, j'imagine.
Très bien. C'est la fin de la sidérurgie. En gros, petit à petit, il y a plein de licenciements. Et donc les syndicats montent au créneau, cherchent des nouveaux moyens de se battre. Ils utilisent les moyens traditionnels, voilà, les grèves, les manifestations. Ils viennent à Paris manifester. Voilà, il se passe plein de choses. Et puis c'est vrai que la radio, c'est un moment où ça apparaît. Bah, profitons-en pour utiliser, pour diffuser sur toute la région grâce à un émetteur. Ils avaient de l'argent pour le coup grâce au syndicat.
Oui.
Et oui, c'est toujours le nerf de la guerre quand même. C'est C'est avoir un minimum d'argent pour avoir ce matériel et du bon matériel. C'est pas la première radio syndicale. Il y avait déjà eu des radios syndicales. J'en ai parlé tout à l'heure avec Jean Ducarroir, où il y avait déjà eu des petits essais, des petits. Mais là, c'est quand même une radio qui émet en permanence, une radio qui est acceptée par la ville, qui est aimée par la ville, par tous les citoyens qui venaient, avec des ouvriers qui venaient au micro. Tout le monde pouvait rentrer. Voilà, on peut voir des photos. Les gens étaient autour, regardaient l'émission. C'était un spectacle. Enfin, tout le monde pouvait venir, tout le monde pouvait prendre la parole. Il y avait des émissions sur les immigrés. Des émissions des femmes sur les femmes, enfin voilà, des choses qui n'avaient jamais existé avec une telle ampleur, et puis voilà, avec un bon émetteur. Donc ça compte quand même, voilà, d'émettre en permanence tous les jours, et puis animé par des professionnels.
Oui,
aussi.
Oui, c'est ça, Marcel Tria.
Voilà, Marcel Tria. Marcel Tria qui a été licencié à l'époque de mai 68 pour ce qu'il avait, quand il travaillait sur la radio publique, la radio d'État. Et donc là, vraiment avec des deux journalistes rémunérés. Donc voilà, il y avait les bénévoles, et puis il y avait deux personnes qui étaient rémunérées. Et donc par le syndicat, c'est pareil. Donc le moyen économique était important. Juste avant, il y avait SOS Emploi qui avait pris un peu moins d'ampleur, mais il y avait...
C'était la CFDT.
C'était la CFDT. Donc voilà, il y avait un peu de concurrence entre les deux. Et puis Lorraine Cœur d'Acier, il y en a eu d'autres après, parce que faut dire qu'il y avait des élections syndicales aussi.
Ah bah oui.
Et donc les élections syndicales, c'est pareil, c'est des élections. Voilà. Donc il y a une campagne pour quel est le meilleur syndicat, pour qui voter. Et donc c'est pareil, ça permet de créer des dynamiques, quoi. À chaque fois qu'il y a des élections, tout d'un coup on trouve des budgets.
Ah bah oui, je connais, ouais, ça. je connais. Et alors, il me semble que la CGT a été un peu dépassée par... le succès populaire, je dirais, de Lorraine Cœur d'Acier.
Bah, c'est-à-dire que oui, parce que elle... Alors ça, c'est vraiment une question importante, c'est-à-dire comment on peut créer une radio, et la radio d'un parti ou la radio d'un syndicat. Est-ce que la radio va diffuser uniquement le programme du syndicat, avec la parole du syndicat très prévue, très relue, un peu censurée aussi, hein, dans le syndicat, très contrôlée? Ou est-ce que, voilà, un syndicat, tout d'un coup, il peut créer une radio libre, parce qu'il se pensait pas forcément comme une radio libre, il se pensait, voilà, la radio quand même d'un syndicat, pour un combat, quoi. Il y avait vraiment un combat pour sauver la vie professionnelle de gens, quoi. Donc une fois que le combat était perdu, malheureusement, est-ce qu'il y avait encore un intérêt à financer une radio qui avait pris un peu d'autonomie quand même, par rapport à la ligne syndicale, qui diffusait des programmes qui éventuellement pouvaient aller contre les intérêts même du syndicat, éventuellement, et qui coûtait de l'argent? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres combats pour le syndicat? Et donc c'était plus une priorité, il n'y avait pas d'objectif.
Et donc ils ont coupé
l'argent.
Couper le robinet. Alors, il y a une autre tentative marquante, c'est Radio Riposte, dans laquelle le Parti Socialiste va vraiment s'engager, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ça avec vraiment des personnalités qui sont devenues ministres, voire même présidents, qui sont engagés dans ce truc-là?
Eh bien, oui. Alors, c'est intéressant, Radio Riposte aussi, parce qu'effectivement, il y a toute l'ambiguïté dont on n'a pas encore parlé, mais l'ambiguïté des partis politiques.
Ah voilà.
C'est-à-dire qu'au sein de chaque parti, politique ou presque, il y avait des tendances à libéraliser un peu plus l'audiovisuel, et des tendances qui, au contraire, pas du tout. C'était quand même assez majoritairement plutôt. Enfin, et donc le Parti Socialiste était plutôt une tendance contre la fin du monopole. Hein. C'est ça dont il faut se souvenir.
Ah,
c'était mitigé au sein du parti. Il y avait des tensions. Il y avait Cévenot, par exemple, qui était plutôt pour la libéralisation. Voilà, parce que lui-même était un peu dans la communication, hein, Maurice Cévenot. Mais après, il y avait d'autres tendances qui étaient totalement contre. Et même Mitterrand, quand on le voit dans les dialogues, en fait, il est contre le fait que Valéry Giscard d'Estaing monopolise la parole publique sur les médias publics, médias d'État. Mais est-ce qu'il est pour autant pour la fin du monopole? C'est une autre question. Il y avait des tensions comme ça au sein de chaque parti, et y compris le parti du gouvernement, y compris le parti de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il y a une radio, ça c'est une anecdote, Radio Fil Bleu, enfin c'est même pas une anecdote, c'est quand même quelque chose de très important, c'est au tout début du mouvement, Radio Fil Bleu décide d'émettre, et c'est des membres du Parti Républicain. Et ils vont même aller jusqu'au procès, qu'ils vont gagner. Ils vont gagner un procès. Et oui, parce que à l'époque, il n'y a pas de loi qui sanctionne les personnes qui vont contre le monopole. Il n'y a pas de sanctions, ce qui fait que le juge n'a pas de moyens de censurer finalement. Et donc, ils vont gagner en appel aussi. Et ce qui fait que là, il y aura une loi en 78 qui punira pour atteinte au monopole. Ah oui. Et donc ça va se durcir à partir encore en 78. Donc des sanctions spécifiques pour le monopole de la radio, parce qu'avant il y avait le monopole des télécommunications.
Ah oui,
c'est pas exactement la même chose.
Ils jouaient là-dessus. Oui.
Ils jouaient là-dessus sur ce. Et donc Radio Riposte. Donc bah, une radio, il y a des élections, hein, c'est pareil. Mitterrand quand même était proche en 74 de gagner quand même, il faut s'en souvenir, ça s'est joué à 300 000 voix près au second tour. Ouais. Et donc Valéry Giscard d'Estaing a pas beaucoup intérêt à donner de la liberté sur les ondes à Mitterrand, puisque voilà, il veut être élu en 80, il espérait faire un second mandat. Et donc pour avoir de la parole, effectivement, Mitterrand va décider de faire de la radio pirate et de faire plusieurs, enfin lui-même va en participer à une émission, va enregistrer une émission qui sera diffusée à un autre moment. Et après, il y aura d'autres émissions, d'autres radios ripostes par la suite. Mais globalement, voilà, il y a surtout un moment très fort dans les locaux du Parti Socialiste, dans le nord, dans le 9e arrondissement, pas au centre de Paris, dans le 7e, mais quand même, c'est bien une annexe, c'est bien un moment, c'est bien un lieu important du Parti Socialiste, et donc avec des députés, effectivement des futurs ministres qui sont là et qui vont défendre cette émission qui va être diffusée, je crois qu'elle dure une heure d'émission, hein, qui va être l'État va brouiller les ondes très rapidement. Donc, je crois qu'on peut pas entendre la totalité de l'émission, mais pas du tout même. Et donc avec un discours de Mitterrand, puis avec aussi une émission, je crois que c'était ça parlait des questions d'immigration. Donc ils avaient créé une émission, enregistré une émission. La police arrive, la police défonce la porte du Parti Socialiste, rentre en masse, hein, ils sont en masse. Hein. Et puis là, il y a les députés avec leurs cocardes, etc., des maires, des députés, toute l'équipe, tous les militants du Parti Socialiste qui viennent défendre. Et donc après, il y aura un procès en fonction de la loi de 78, et donc une condamnation, et après une amnistie. Par Mitterrand passera une loi d'amnistie.
Ouais. Alors, on reviendra sur la suite après un morceau de musique. Mais juste, je crois que je t'en ai parlé en hors antenne tout à l'heure. Moi, je me souviens d'une radio. Alors, peut-être pour les jeunes auditeurs, il faut rappeler que la bande FM, il n'y avait rien. Enfin, il y avait France Culture, France Musique. FIP, je ne sais pas. Si, FIP peut-être.
FIP aussi,
et,
ouais.
Et c'est tout. Après, le reste, il y avait le bout de la bande d'onde là, qui était pour l'armée. Alors, on entendait des trucs, des fois, des igouigoui. Mais sinon, le reste, c'était absolument vide. C'était désolant. Moi, je me souviens de ça, vraiment. Et un jour, il est apparu Radio 7. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont créé ce truc-là? Je me suis demandé, moi, si c'était pas une conséquence.
Bien sûr.
De l'aspiration aux radios libres.
Bien sûr.
C'est ça.
C'est une hypothèse. Oui, c'est une radio qui veut atteindre les jeunes. En effet, il y a une dynamique. Il y a plein de jeunes qui veulent avoir de la radio. Donc, ils en recrutent, comme je disais, ils en recrutent quand même à France Inter. Ils en recrutent parce que moi, je connais, par exemple, j'ai fait une thèse sur Radio Ici Maintenant. Mmh. Et les deux fondateurs de Radio Ici Maintenant ont travaillé à France Inter. On fait quelques émissions sur la spiritualité, sur des choses comme ça, à l'antenne de France Inter avant de créer leur propre radio. Ouais. Donc, mais Radio 7, effectivement, oui, radio pour les, il y a eu un budget, mais en fait, il y a eu aussi les futurs France Bleu.
Ah, c'est
les futurs France Bleu qui ont été créés à cette époque-là. Et c'est parce que effectivement il y avait un désir d'avoir sa radio locale, d'être représentée au niveau local, de parler de ce qui se passe au niveau local, au niveau régional. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'avait que des radios qui très parisiennes, quoi, très nationales, où on parlait que... Alors que voilà, la FM, c'était très facile à faire. Et pourquoi les gens dans les villes n'auraient pas le droit d'avoir leur radio Et donc évidemment, oui, la radio, une radio jeune qui n'a, et les radios jeunes ont rarement marché. Encore aujourd'hui,
Move,
ça a jamais très bien marché. Ouais, c'est très compliqué. Ils ont mis beaucoup d'argent, mais les radios jeunes, c'est les radios commerciales qui ont réussi vraiment à plaire aux radios très jeunes, aux très jeunes. Et là, globalement, la radio n'a jamais beaucoup plu aux jeunes. Donc on se dit toujours aujourd'hui bah, pourquoi les jeunes n'écoutent plus la radio, mais en fait ils n'ont jamais beaucoup écouté la radio jeune.
Ah bah, justement, on va écouter un groupe jeune, mais jeune des années 80. Mais c'est vraiment, bah, franchement, ce morceau-là, je m'en souviens parce qu'il était vraiment dans l'air du temps hein, à l'époque. C'est Bijoux, rock à la radio. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. L'émission Les Oreilles Libres consacrée aux 40 ans de la libération des ondes, on va dire ça comme ça, avec Sébastien Poulain. Alors, Sébastien, quels étaient les arguments de Giscard, Barre et du gouvernement pour justifier, lorsque ça pressait, quoi, il y avait des demandes dans ce sens, pour justifier le maintien du monopole d'État? Qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi il...
Alors, c'est intéressant. Il y a plusieurs arguments. Et tout à l'heure, on parlait de les militaires. Ben, c'était un exemple. On voulait pas toucher aux fréquences militaires, par exemple. On voulait pas que des avions, les tours de contrôle, qui diffusent aussi des ondes, qui échangent avec les avions, que des avions, s'écroulent, se crashent. On voulait pas, des choses comme ça, ou les fréquences de, les fréquences de la police, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un argument, par exemple, qui n'a pas tenu beaucoup. On voulait pas que ça soit l'anarchie.
Ouais.
Ça, c'est un argument fort. Je crois que c'est Raymond Barre qui l'a utilisé. Ouais. Ça, c'est l'anarchie, parce que tout d'un coup, on donne du pouvoir, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Si on donne la parole comme ça...
À n'importe qui.
À n'importe qui, tout d'un coup, tout va exploser. L'invasion des extraterrestres.
Non, mais c'était ma question d'après. Est-ce que cette crainte de l'anarchie, entre guillemets, plus simplement peut-être d'appel à l'insurrection, est-ce que c'était un prétexte pour interdire les radios libres, ou est-ce qu'il s'agissait d'une menace réelle? Est-ce que vraiment ça aurait... C'est un prétexte.
Comment savoir si les gens le pensaient vraiment? Ce qu'il y a, c'est que il y a quand même eu beaucoup de guerres au XXe siècle. Hein, et c'est vrai que dès le départ, la radio, c'est un média utilisé par des militaires. expérimenté par des militaires pendant la guerre 14-18 déjà. Hein. Au départ, c'est la radio qui a Radio Tour Eiffel. Il y a des militaires qui même donnent la météo à l'antenne. Hein, c'était quand même donc voilà, il y a une dimension très militaire. Alors évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, où là il y a eu ce qu'on appelle la guerre des ondes, où en effet Radio Stuttgart, la BBC, Radio Paris, Radio Paris Mort, Radio Étalement, Radio Paris Étalement. Enfin, voilà, donc il y a les politiques ont toujours eu peur des médias. Mais l'État lui-même a toujours eu peur de donner du pouvoir comme ça aux citoyens. Il y a un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire par rapport à l'étranger quand même. C'est-à-dire effectivement les ondes comme ça traverse, il n'y a pas de frontières justement. Donc c'est, contrôler l'information de ce qui est diffusé, c'est un peu comme aujourd'hui. On a toujours avec Internet, on a toujours peur que les Russes mettent des, enfin voilà. Donc ça a pas eu de gros changements. Et donc effectivement gérer la population, l'ordre public. Enfin ça a toujours été ça. Donc au-delà de la politique politicienne, il y avait l'État quand même qui avait peur de l'État étranger, ou qui avait peur effectivement de perdre le contrôle de la police en France, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc l'anarchie.
Ouais. Eh ben ouais.
Et la radio commerciale aussi. Tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, on veut pas que en fait des pays puissent s'approprier, des pays étrangers puissent s'approprier les médias français.
Ah, okay,
ça a toujours été interdit. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un propriétaire étranger d'un média français. Il y a eu récemment, de quel pays d'ailleurs ? Enfin, il y a eu un. Je crois que c'est un tchèque qui a acheté des parts dans Le Monde, et ça fait tout, ça fait un scandale comme toujours un blocage là-dessus.
Alors revenons à l'élection de François Mitterrand, donc le 10 mai 1981. Est-ce que ça a provoqué un raz-de-marée sur la bande FM? Comment ça s'est passé?
Oui, dès mai, dès l'élection, le soir même de la victoire. Enfin, de nombreux acteurs déjà commençaient à faire, à s'installer sur la FM, à prendre du pouvoir sur la FM, parce que on l'a entendu dans l'émission sur Radio Libertaire, c'est qu'il y a tout d'un coup, voilà, une concurrence pour avoir une place. La FM, finalement, il y a une vingtaine de places, c'est pas tant que ça par rapport à, bah justement, au nombre de dossiers, au nombre de radios, au nombre de projets de radio qui vont éclore à ce moment-là, qui sont bien plus nombreux que quelques semaines avant, où les radios libres avaient quand même du mal à recruter, à émettre, voilà. Et là, tout d'un coup, bah, tout le monde, y compris les industriels, y compris, par exemple, Pierre Bélanger, qui avait un objectif de professionnalisation, même s'il a fait de la radio libre. Pierre Bélanger, c'est Skyrock aujourd'hui.
Ah, d'accord.
C'est le directeur de Skyrock. Et donc, il a fait la radio libre. Il a commencé vraiment à Radio Paris 80, je crois qu'il a participé à Radio Nova, il a participé à diverses émissions. Il a découvert ça. Et donc, dès le 10 mai, ça augmente. Et donc, tout l'été, jusqu'à septembre, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une légalisation, une loi sur, qu'on fête aujourd'hui, quoi, en quelque sorte. Et donc, peut-être encore augmenté, mais petit à petit, voilà, tout d'un coup, tout le monde n'y a pas pensé, mais c'est venu assez vite, quand même.
Ouais. C'est-à-dire, la loi, elle sort en septembre, c'est ça?
C'est novembre.
Novembre, d'accord. Ah oui, d'accord. Et alors, comment ça se passe? Alors, j'imagine qu'il y a une surabondance de stations. Comment l'État va réguler ça? Comment ils vont quelle décision ils prennent?
Alors, donc, il y a des gens qui rentrent de force. Il y a ceux qui ont des gros émetteurs parce qu'ils ont des objectifs professionnels de faire des radios commerciales comme les radios américaines. Faut quand même se souvenir dans cette histoire qu'aux États-Unis, il y avait une très grande liberté depuis longtemps sur la radio privée, et on avait des radios communautaires qui ressemblent à nos radios associatives d'aujourd'hui. Et donc, effectivement, de la concurrence. Et donc, il y a une autorité qui se met en place, le CSA d'aujourd'hui. Donc ACAS et NCL, voilà, c'est les deux, l'origine du CSA d'aujourd'hui, qui arrivent, qui sont mis par l'État. Enfin, il y a une loi qui est... Et donc il y a aussi une commission Olo, qui se met en place pour sélectionner les dossiers, tout simplement, parce qu'il y a bien trop de radios, hein, des centaines de radios en Ile-de-France, mais même à Paris, hein, on a un très grand nombre de radios.
Ah oui, je me souviens.
Et donc, faut sélectionner.
Alors, les critères, c'est quoi ?
Alors, il y a déjà des critères économiques, comme aujourd'hui, hein, c'est quand même très important, le critère économique, c'est est-ce qu'une radio peut survivre et donc, il y a des critères aussi de contenu. Hein, le but, c'est pas qu'il y ait 50 radios synonymes.
Ah oui,
donc,
oui,
il faut une diversité.
Ah
oui. Hein, dès ce moment-là, par exemple, il y a les radios juives, c'est les plus anciennes radios de France, qui obtiennent une fréquence qui... Il y a différentes tendances chez les radios juives. Après, voilà, l'idée, c'est d'avoir représenté les différents styles musicaux, les différentes tendances, pas politiques, mais voilà, les différentes tendances associatives, d'avoir, voilà, les différentes communautés aussi. Il n'y a pas que... Il y a la religion, la communauté d'origine, la langue, des choses comme ça.
Et alors, dans l'émission sur Radio Libertaire, qu'on cite, alors je rappelle qu'elle a été diffusée mercredi soir et qu'on peut la retrouver donc sur le site de radio-libertaire.net ou sur le site des camarades de Femmes Libres. Et alors, pour le retrouver, faut taper... Si vous tapez Femmes Libres, vous allez tomber sur des choses assez étranges. Malheureusement, mais si vous tapez émission Femmes Libres, vous tombez sur leur site. Et donc, c'est la dernière émission qu'on peut écouter sur leur site. Et je vous encourage à l'écouter. Et, on entend les camarades qui expliquent que eux n'ont pas été sélectionnés. Enfin, oui. Ils n'ont même pas eu de refus parce qu'on les a carrément ignorés, quoi.
Ah oui, oui. Et donc là, il y a une bataille qui se met en place au sein même de la commission, par exemple.
Ah oui.
Et oui, donc là, le lobbying, c'est aussi pour ça qu'on a eu l'ALO, on en parlait tout à l'heure, et la FNRL. C'était aussi leur objectif, à un moment, de dialoguer avec l'État au moment où il y aurait l'autorisation.
Et oui, d'accord.
Et donc, il y avait des représentants au sein de la commission de ces différentes fédérations, associations. Il y a plein de nouvelles fédérations qui se mettent en place, parce que les futures radios commerciales aussi, elles commencent à créer leur propre fédération, leur propre lobby. Et donc, après, il y a aussi les radios non représentées, qui ont une personne qui les représente. Enfin, il y a les radios non syndiquées, non fédérées,
oui.
Qui ont aussi un représentant au sein de la commission Holo. Mais, donc voilà, donc il y a un combat. Après, c'est juste, parmi toutes celles-là, il y a une concurrence. Oui. Donc Radio Libertaire, pourquoi? C'est sûr que Radio Libertaire, la fédération anarchiste, je vais pas vous dire que l'État socialiste était forcément le plus grand fan.
Non, c'est sûr. Mais alors, pourtant, ils ont cédé, puisqu'il y a une fameuse manifestation, je crois 10 000 personnes, hein, si je me souviens bien des chiffres.
Il y a plusieurs manifestations.
Plusieurs, oui. Ouais.
Ouais, ouais.
Et alors, il y a une autre radio qui a été importante, moi, que j'écoutais et que j'aimais beaucoup, c'était Carbone 14.
Oui.
Et je voudrais savoir pour quelles raisons a-t-elle connu des difficultés et a fini par être interdite en 1983.
Alors c'est pareil, elle n'a pas été sélectionnée. Il y a eu des propos qui n'ont pas plu, qui ont été tenus à la radio. Bah, c'était une radio pas anarchiste, mais une radio un peu libertaire quand même, où il y avait différents programmes, mais grande liberté de ton, grande liberté d'expression.
Ouais.
C'est une radio un peu mythique. Après, après, pourquoi elle n'a pas été retenue spécifiquement il y avait déjà plus beaucoup de place.
Et alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une radio à laquelle tu t'es particulièrement intéressé, c'est Radio Ici et Maintenant.
Oui.
Tu dois savoir pourquoi cette radio en particulier?
Alors, ce qui m'intéressait, c'était la dimension un peu anthropologique, dans le sens où il y avait à la fois de la politique et du religieux, du spirituel. C'est un peu une radio un peu New Age, comme on peut les qualifier comme ça aujourd'hui.
Les extraterrestres.
Voilà. Ouais. Ouais, les extraterrestres, les différents, la spiritualité. Je trouvais ça intéressant, j'avais pas envie d'étudier Radio Notre-Dame ou Radio qui sont sans doute intéressants. Il y a plein de radios intéressantes. Ça aurait pu être Radio Libertaire aussi. D'ailleurs, je connais un spécialiste de Radio Libertaire, Félix Mathieu. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ah ben, je crois, oui.
Il écrit des articles. D'ailleurs, je les publie.
Je vois qu'il en est question dans l'émission sur Radio Libertaire dont on parlait. Là.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Et donc c'est une radio intéressante qui, en plus, a le bénéfice d'avoir été une radio libre aussi. C'est-à-dire qu'elle a émis avant avant la fin du monopole. Ah, ouais, donc okay. C'est la plus vieille radio associative.
Ouais. Alors, mais moi, ce dont je me souviens de Radio Ici Maintenant, c'est que vraiment, la parole était donnée aux auditeurs sans trop de contrôle. Alors ça, je ne sais plus dans quelle mesure. Et justement, on a parlé beaucoup de libération de la parole concernant les radios libres. En gros, le peuple était invité à prendre l'antenne. Mais je veux savoir, qu'est-ce qu'il en a été en réalité? Quelle fut la sociologie des personnes qui se sont exprimées dans les radios libres avant et tout de suite après la fin du monopole d'État? Est-ce que c'est vraiment le peuple qui parlait ou est-ce qu'il y a des études de classe sociale et tout ça qui ont été faites?
Bon, déjà, c'était pas beaucoup de monde au tout départ. Il n'y avait pas une audience. Alors surtout de l'époque des radios libres, où il y avait vraiment, fallait quand même être au courant qu'il y aurait une émission sur tel lieu, à tel endroit, à telle heure. Donc là, vraiment, il fallait lire Libération ou Rouge ou je ne sais quel, Le Monde éventuellement qui diffusait l'info, qui allait dire tiens, ils vont. Donc il y avait un communiqué de presse d'abord. Il fallait que le journal le reprenne. Bon, alors après, ça change évidemment quand il y a la libéralisation. Là, on commence à avoir un peu des choses, des radios un peu plus stables. Après, l'audience augmente petit à petit. Au départ, c'est des tout petits chiffres, hein. Mais assez rapidement, avec des radios comme Énergie, des radios comme les radios commerciales, elles vont tout de suite être un peu au-dessus du lot et avoir une audience plus importante. Donc après, ça se massifie, hein. Mais par contre, les gens qui sont à l'antenne, c'est vrai que c'était très accessible. C'est vrai qu'il y avait très peu de contrôle. Enfin, en tout cas, Radio Ici Maintenant, c'est certain, ils prenaient n'importe qui. Il n'y avait pas de standardiste. Ouais. Donc on savait pas qui allait passer à l'antenne. Et ce qui fait que c'était un risque aussi parce qu'effectivement à l'époque il y a eu des nazis qui ont pris la parole d'extrême droite, ce qui a provoqué des problèmes pour la radio elle-même, qui a perdu son autorisation par exemple sur une période, qui a dû se battre face avec le Conseil d'État, aller devant le Conseil d'État pour que le CSA la réautorise à émettre.
Et si je me souviens bien, Radio Libertaire a hébergé Radio Ici Maintenant.
Ils se sont très bien entendus, il y avait une solidarité effectivement.
Alors, entre 81 et 84, la publicité est interdite sur la radio libre. Je veux savoir qu'est-ce qui va faire changer le gouvernement? Comment les radiofrics, selon l'expression même de Pierre Mauroy, ancien Premier ministre, donc, ont-elles fini par s'imposer?
Mais si on avait dû financer entièrement la FM avec une aide d'État, ça aurait coûté quand même très cher à l'État. Surtout si on voulait vraiment avoir des radios avec avec plein de salariés. Enfin, un salarié, ça coûte très cher pour une radio. Hein. Il y a les radios associatives. Voilà, parfois il y a 2, 4, 6 salariés maximum dans une radio associative. Parfois il y a pas de salariés. Voilà, souvent c'est des techniciens. Il y a parfois un journaliste.
Et ici, il y a pas de salariés.
Mais ici, il y a pas de salariés. Voilà, mais ça coûte très cher d'avoir un salarié pour une radio qui déjà utilise beaucoup d'argent pour les locaux. Pour le renouveler le matériel, pour l'électricité, enfin des petites choses comme ça. On a l'impression qu'on peut faire la radio depuis chez soi, mais non.
Et TDF également, je crois que c'est pas gratuit
pour l'émission. Hein, bien sûr, et puis avec le numérique qui arrive, avec ce qu'on appelle la RNT, mais enfin, peu importe, même sans la RNT, c'est des coûts, effectivement. Et donc, il y avait beaucoup de radios. Est-ce que l'État pouvait se permettre de financer toutes ces radios? Et ces radios ont beaucoup souffert dans ces 3 années où... donc la publicité interdite. Après, certaines se débrouillaient pour faire des partenariats, pour cacher les choses, pour... il y avait un peu de publicité cachée. Dès le départ, si vous voulez, les radios commerciales ont triché. Par exemple, il y avait une limitation de la puissance d'antenne, de la longueur de diffusion. C'est pareil, les radios commerciales ont mis des émetteurs très puissants, bien plus puissants que les autres, et ce qui fait que les radios associatives, les autres radios qui suivaient la norme, étaient un peu écrasées par la puissance. Et puis il y avait plein de radios qui étaient épuisées, parce que c'est vrai qu'animer une radio, c'est 24 heures d'antenne, c'est pas comme le papier ou un mensuel ou enfin tout ça coûte, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et donc il fallait trouver un financement. Et c'est vrai que et donc là il y a 2 types de financement qui arrive. Il y a le financement de la publicité et puis la subvention parafiscale avec justement un financement qui est pris sur la publicité. Sur la publicité à la fois de la radio publique et de la radio commerciale. Ça, c'est un système intéressant.
Ouais. Et un troisième financement, c'est le soutien des auditeurs.
Ah bah oui, bien sûr. Ça, depuis l'origine, ça.
C'est ce qu'on fait, nous. L'autorisation des radios libres, est-ce que ça n'a pas mené à la dérégulation de l'audiovisuel qui va aboutir, dès 1985, à la création de télévisions privées, dont la fameuse 5 de Berlusconi ?
À partir du moment où on commence à autoriser les radios, effectivement, c'est la privatisation hein, de la FM, c'est la privatisation du domaine public hertzien. Donc à partir du moment où on met un pied dans la porte, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi si on a des radios commerciales, pourquoi pas avoir des télévisions commerciales après ouais. tout bon, l'État se rend compte que c'est pas vraiment un danger d'avoir des radios locales, des radios commerciales, des radios privées, et donc pourquoi pas une télévision effectivement commerciale avec TF1 qui va arriver ouais. avec
86,
ouais. Berlusconi, ouais. ouais. Tout arrive, Canal Plus aussi qui arrive très vite aussi. Hein.
Je propose qu'on écoute un petit morceau de musique. Radian, le fabuleux, l'extraordinaire groupe autrichien Radian. Et le morceau s'intitule Transistor. We'll be right back.
Allô.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste et l'émission Les Oreilles Libres, avec Sébastien Poulain, et on parle des radios libres. Alors, aujourd'hui, 40 ans après, qu'est-ce qui reste de cet élan des années 80? L'esprit des radios libres existe-t-il encore et quel constat on peut effectuer avec le recul, notamment en matière de démocratisation des médias? Et je précise que j'entends par démocratisation la parole au peuple, hein, et pas le fait d'aller foutre un torche-cul dans une urne tous les 5 ans.
Bah, on peut dire que le média radio est le média le plus démocratique. Audiovisuel, alors à l'exception d'Internet, parce que c'est vrai qu'Internet, c'est tout le monde encore plus de façon massive, mais pendant longtemps, la radio a été le média audio, enfin, par rapport à la télévision, où ça a toujours été un problème. Hein. Ouais. Il n'y a pas de radio associative. Il n'y a pas de télévision associative.
Il y en a eu, il y a eu Zaléa.
Mais oui, Zaléa, ils ont essayé. Ben ouais. Oui.
Ils ont même fait passer devant la commission. Là.
Oui, ils ont essayé, oui. Mais non.
Ben non.
Pourquoi c'est quand même pas si compliqué. Parce qu'aujourd'hui, chaque association fait, par exemple, fait des petits podcasts, que ce soit podcast télé, podcast radio, peu importe. Donc c'est très facile, voilà, de faire une heure d'émission dans une association, peu importe. Et après, on la passe à la télé, sur la TNT ou sur la RNT, peu importe. Donc pourquoi c'est dommage qu'il n'y ait pas cette parole démocratique au niveau de la télévision. Ouais. Que ça soit diffusé nationalement dans toute la France, d'avoir une télévision associative. Ou deux, je ne sais pas. Pourquoi il n'y a que des télévisions commerciales ou publiques?
Ah bah c'est une tristesse. Moi, j'ai rêvé, étant enfant, moi qui aimais beaucoup la télé, qu'il y avait plein de télés différentes et tout ça. Mmh. Et actuellement, il y a France Télévisions, Arte, et puis c'est tout, quoi.
C'est la publique, après c'est que des télévisions
commerciales. Les autres télévisions ne servent à rien. Je dirais un peu pareil pour la radio, sauf que c'est un peu moins. Il y a effectivement quelques radios libres.
Ah oui, beaucoup de radios associatives en France.
Alors, moi je suis allé en province.
Des centaines.
Oui, d'accord, mais tu vas en province, tu tombes pas forcément... Enfin, je vais même à Paris, hein, tu tournes la bande FM, enfin, faut vraiment y aller avant de trouver un truc intéressant. Il y a pas mal de merde quand même.
Moi, je vais pas juger les programmes, mais en tout cas, ce qui compte, c'est en fait d'avoir la possibilité de faire un programme local.
Par rapport aux années 80, au début des radios libres, je trouve que maintenant c'est assez pauvre.
Bah parce qu'effectivement, il y a une concurrence d'Internet, donc aujourd'hui...
Ah non, je pense pas. Non, pour moi, c'est le commercial, quoi. Tu vois, au niveau des musiques, c'est vraiment lamentable ce qu'on a, quoi.
Ben ça, c'est... Voilà, bon, c'est les radios commerciales sont très formatées. C'est les mêmes musiques qui passent sur toutes les radios, à la même heure, presque le même jour, le même ton. C'est sûr, ça, c'est... Après, elles sont très segmentées, c'est très marketing, c'est-à-dire, voilà, à tel âge, on va mettre telle musique, tel segment de population, avec des visées, vraiment. Si vous avez 50 ans, ça y est, vous passez sur Radio Nostalgie. Enfin, ouais. Voilà, c'est ultra formaté. Ouais. Voilà.
Puis même dans ce dont on parle, c'est-à-dire la démocratie, la parole du peuple à la radio, je vois des émissions comme sur RMC, là où on entend des saloperies sur les immigrés en permanence. Là, c'est toujours un peu le même genre de truc, quoi.
Oui, alors ça, c'est les radios généralistes, Europe 1, RTL, avec des émissions, voilà, c'est des radios politisées, qui se disent pas politisées, mais qui sont effectivement aussi très politisées. Mais malgré tout, il y a des centaines de radios locales.
Ouais.
Donc si les gens veulent se l'approprier, ils peuvent le faire. Mmh. Parce qu'il y a plein de radios qui ont besoin de personnes pour les animer et qui trouvent pas.
Ah oui.
Et y compris à Paris, hein, faut pas croire. Donc, oui. On peut ne pas être juste passif, ne pas être juste auditeur. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est passif quand on est auditeur? On peut remettre en question cette idée. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de possibilités d'entrer dans des radios. Il y a plein d'animateurs aujourd'hui très connus, d'ailleurs, qui ont commencé dans des radios locales, dans des radios associatives. Je sais pas, Laurent Ruquier, il a commencé dans une petite radio locale en Normandie. Ouais. Il l'a raconté plein de fois dans ses livres. Ouais. Et donc voilà, ça permet en effet de démocratiser la parole dans le sens où, par exemple, il y a des radios dans des collèges, dans des lycées, universités, dans des hôpitaux. Il y a une diversité incroyable qui n'existe nulle part qui n'existe pas à la télévision, en fait.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les enjeux de cette nouvelle technologie, le DAB+, hein, qui va se substituer à la bande FM?
Alors, bon, bah, c'est d'autres. Alors, dans cette idée. Alors, déjà, c'est une idée très vieille. Hein. On en parle depuis. C'est un serpent de mer hein, qui.
Ouais, ouais.
Depuis 20 ans, 30, presque 30 ans, où on veut, en effet, numériser la radio. Ce qui permet d'avoir des informations en plus qui sont envoyées par les ondes. C'est-à-dire qu'on peut avoir avec le numérique, on peut savoir quel est le groupe qui est diffusé au même moment. Par exemple, le son est un peu, il y a un très bon son aussi. Il y a plus de radio, la possibilité d'avoir plus de radio. Voilà, un peu plus, hein, c'est pas non plus la révolution. Hein, c'est ce qui est dommage avec la RNT, la radio numérique terrestre, donc, c'est que c'est une radio, elle aurait existé dans les années 90, ça aurait été parfait. C'était le moment. Mais maintenant, avec Internet, c'est vrai qu'on peut écouter les web radios,
bah oui.
qui sont très nombreuses, des milliers de radios dans le monde qu'on peut écouter, de n'importe où dans le monde, bah, comme Radio Libertaire.
Ouais.
Et donc, l'intérêt de la RNT, alors, elle va arriver, hein, parce que on dit toujours qu'elle va. Elle est en train d'arriver justement cette année-là. Le CSA a toujours voulu qu'elle arrive. Les radios publiques ont freiné longtemps. Les radios commerciales ont freiné longtemps parce que ça leur fait perdre des auditeurs. Ça leur fait perdre donc de la publicité. Et donc il y a eu un lobbying anti-RNT pendant longtemps des grandes radios, ouais. parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir plus de radios concurrentes dans chaque lieu de France.
Ah c'est ça, d'accord.
Ah oui, tout simplement. Hein, c'est tout simplement de la concurrence.
Hein. Ouais.
Et donc bon bah ça va coûter un peu plus cher pour l'auditeur parce que c'est vrai que c'est des nouvelles technologies, c'est des petits ordinateurs, enfin c'est des outils numériques, c'est de l'informatique tout ça, donc il faut un récepteur numérique. Donc
à terminer le poste de radio quoi.
Ben si, ça sera toujours un poste de radio, mais numérique. Enfin voilà, ça sera.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra racheter un appareil.
Un nouveau poste. Ah tout à fait. Ah bah oui.
Ah oui, d'accord.
Ah oui. Et donc là, ça sera plus possible d'avoir une radio sur son. Je sais pas. Des fois, moi j'ai déjà vu des radios qu'on pouvait recevoir sur un stylo, par exemple. là, c'est un peu plus lourd. C'est des objets un peu plus précieux, un peu plus chers, 60 € minimum pour.
Okay.
Donc c'est voilà. Et c'est pareil pour la diffusion. C'est-à-dire que c'est un peu plus cher. Faut s'entendre parce que c'est des regroupements. Il y a des regroupements de radios qui doivent s'entendre pour diffuser ensemble. Donc c'est un peu plus cher globalement. Après, oui. voilà, c'est un avantage effectivement d'avoir quelques radios en plus, mais c'est un petit avantage au moment où Internet existe.
Eh ouais, d'accord. Bon, c'est une arnaque, quoi.
un petit peu.
Alors, ton livre, parlons un petit peu de ton dernier livre, là, qui vient de sortir, je crois.
Oui, cette semaine.
Cette semaine, les radios locales, histoire, territoire et réseau. Peux-tu nous en parler, nous expliquer de quoi il est question ?
Alors là, c'est l'idée de plutôt que d'étudier. Souvent, on étudie une radio, par exemple. On étudie l'histoire de. On étudie une émission. Souvent, on étudie chez les chercheurs. Souvent, on étudie voilà un peu l'historique. Là, l'idée, c'était d'avoir une autre perspective en fait sur la radio et de voir en quoi la radio, une radio appartient à un territoire. Justement, on parlait de radio locale.
Ouais.
Bon, bah c'est pareil. Il n'y a pas de radio associative. National. Il n'y a jamais eu de radio associative, alors qu'il y a plusieurs radios commerciales, radios publiques nationales. Ouais. Il n'y a pas de radio associative nationale. Et c'est dommage, c'est pareil. Ça, pour le coup, la RNT devrait servir à ça. Avoir la même radio, à la limite, même une radio qui servirait à diffuser différents programmes de différentes radios locales, peut-être,
ouais,
pourquoi pas.
Ouais.
Mais au moins qui est comme ça une radio qui ait les mêmes programmes, un peu avec des programmes issus de plusieurs radios associatives, pourquoi pas. Enfin, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas, c'est pareil, cette possibilité d'avoir une radio. Bon. Et donc, là, voilà, c'était de réfléchir un peu à comment les radios travaillent ensemble, éventuellement, dans certains contextes, par exemple, un contexte de guerre. Par exemple, il y a un article dans ce livre sur le Congo. Comment, ouais. lors d'une guerre, les radios, les journalistes peuvent créer des réseaux, comme un peu comme pendant la bataille des radios libres, des formes de solidarité. Et donc, par exemple, justement, comment elles ont créé de la formation. Il y a de la formation, par exemple, pour devenir animateur de radio associative aujourd'hui. Donc ça, il y a un article là-dessus. Il y a un article sur le fonds d'expression radiophonique, justement, dont on a parlé tout à l'heure, qui finance une grande partie des... Enfin, la plus grande partie des radios associatives en France. Elles vivent grâce à ce fonds.
FSER.
FSER, ouais. fonds d'expression radiophonique. Après, c'est beaucoup de financement. Et donc, les dons aussi des... des auditeurs. Mais donc voilà, donc différentes façons d'approcher la radio. Il y a voilà un article sur les radios bleues aussi. On a essayé d'approcher, de parler aussi des radios commerciales, des radios, mais surtout voilà, surtout des radios locales. Les chercheurs s'intéressent beaucoup aux radios associatives locales. Hein, ouais. C'est ce qui intéresse le plus.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Et alors, tu as également un blog sur les radios libres. Que peut-on y trouver?
Bah, je dois avouer que je parle surtout des publications, ouais. des appels à publication, à communication, des scientifiques surtout, des livres quand ils sortent sur les radios libres. Bon, c'est beaucoup Thierry Lefebvre qui en a écrit beaucoup, hein, 3-4, il en a déjà publié. En Carbon 14, on en parlait tout à l'heure, il a publié un livre sur Carbon 14.
Ah, donc,
si vous voulez vraiment voir toute l'histoire de Carbon 14, hein, c'est dans ce livre que, c'est ce livre qu'il faut lire. Donc voilà, c'est très un univers très scientifique. Après voilà, des articles aussi si les gens s'intéressent, veulent écrire un article sur leur radio, sur Radio Libertaire par exemple, ben voilà, avec plaisir. C'est l'idée, voilà, tout ce qui concerne en gros les radios locales, radios associatives, radios libres en gros.
Et comment on trouve sur internet si on veut chercher
les radios libres, ouais. Tout attaché, vous tombez directement.
Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Alors, quels sont tes prochains travaux, tes sujets d'études, tes prochaines activités?
Ah ben, je pense qu'il y a un futur. Alors, c'est pas un livre, mais c'est un numéro de revue scientifique de Radio Morphose qui sera publié dans quelques semaines. Enfin, on va voir, parce que là, on est en plein en cours de relecture, de rédaction aussi, enfin, d'articles, pour un numéro de revue, Radio Morphose, qui est une revue scientifique de spécialistes de la radio, de chercheurs, qui va porter sur la radio et mobilisation. Radio et mobilisation. Donc, comment on mobilise via la radio, comment on utilise Radio Tract, quoi. Donc, ouais. Radio Libertaire, pourquoi pas.
Ah, bah, oui.
Donc, voilà, il y a plusieurs radios qui sont étudiées dans ce numéro. Vous verrez ça, c'est très intéressant.
Ah bah, dans l'émission sur Radio Libertaire des camarades de Femmes Libres, il est question de ça, justement, du fait que Radio Libertaire a servi, alors un peu moins maintenant parce qu'il y a moins de lutte, mais a servi à un moment à mobiliser. Hein.
Bien sûr.
C'est-à-dire que n'importe quelle émission pouvait être interrompue pour.
Bien sûr. Ouais. Et il y aura un article sur Radio Libertaire.
Ah, très bien, super.
Pendant la guerre du Golfe.
Ah,
parce que c'était un moment très important de Radio Libertaire.
Ah, bah, je me souviens très bien, oui. Moi, c'est mes premières manifestations à la guerre du Golfe, effectivement.
Et qui est un moment très important dans l'audiovisuel, parce qu'après, en fait, il y a une chute de la confiance dans l'information diffusée à la télévision. Et, et donc, c'est à partir de ce moment-là, la radio et le média dont on a le plus confiance, au-dessus de la presse, parce qu'il y a un sondage chaque année qui est diffusé, ouais. Financé par la Croix. Et chaque année, on voit que la radio est au-dessus de tous les autres médias. C'est le média qui a le plus confiance.
Et qu'en est-il par rapport à Internet? Est-ce que l'esprit des radios libres, donc, qu'on a évoqué pendant toute l'émission, est-ce qu'il s'est retrouvé sur Internet? Tu dirais ça ou non, c'est autre chose?
Bah, un petit peu dans l'esprit bidouilleur, dans l'esprit les premiers techniciens, les hackers par exemple, qui effectivement le fait, bah, y a un esprit très libertaire à l'origine d'Internet aussi. Oui. Alors attention, parce qu'il y a aussi les militaires qui ont travaillé sur la mise en réseau, il y a aussi les universitaires, parce que c'était quand même une technologie très compliquée qui a mis du temps à émerger et à devenir grand public. Oui. Hein, et c'est vrai qu'il y a les militaires américains qui ont financé Stanford, enfin les universités, etc. Mais donc Internet, oui, il y a une dimension, une proximité dans l'esprit voilà, libertaire, en fait, qu'on peut retrouver dans l'esprit radio-libriste aussi. On peut dire effectivement sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut dire un peu tout ce qu'on veut, et peut-être plus qu'à la radio, encore plus.
Mais continuons d'écouter la radio. Moi, je conseille quand même, je suis attaché, et je suis même attaché parce que tu sais, à un moment pendant le confinement, nous on a fait des émissions de chez nous.
Vous avez continué, ah oui, de chez
ouais,
vous, oui.
Qu'on balançait sur un lien et tout ça. Et après, moi, quand on a quand on a pu accéder au studio, j'ai tenu à ce que ces émissions-là soient diffusées sur l'FM, ouais, sur le Herdien, quoi.
Ouais.
Parce que
ah bah ça reste un média très important, massivement écouté en France, avec une très grosse audience. Il y a eu une baisse un peu d'audience pendant le confinement, parce que les gens prenaient moins la voiture.
Ah, il y a ça. Ouais.
Et c'est vrai que l'audience est beaucoup c'est le marrant, matin, ça. Vers 8h, le pic, le fameux pic. Hein. Un petit peu au retour le soir aussi du travail, mais c'est voilà, vers 17h, 18h, voilà, quand les gens sont dans la voiture. Mais c'est vrai qu'au réveil le matin, les gens écoutent la radio beaucoup, massivement.
Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, Sébastien.
Avec plaisir.
Alors, moi, j'ai une annonce. Les samedis 4 et dimanche 5 septembre, de 14h à 18h30, venez fouiner parmi les livres, les DVD, les CD et même les vinyles que la librairie Publico propose sur ces deux jours à partir de 1 euro. À prix libre. La librairie ouvre tous les jours de 13h à 19h30, j'en profite puisque c'est notre rentrée pour vous le rappeler, du mardi au dimanche et le samedi dès 10h. Alors cette braderie, on va dire, libertaire, de samedi et dimanche sera aussi l'occasion de rencontres, d'échanges avec ceux et celles qui sont amoureux des livres, des films, de la musique, dans un cadre libertaire et également un moyen de soutenir la librairie du Monde Libertaire à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Nous, la semaine prochaine, on reçoit Nout, c'est Delphine Joussin, Blanche Lafuente, Raphaël Rinaudot, et je vous encourage à aller les voir en concert mardi 7 à la Dynamo de Pantin, et puis on parlera de leur groupe, de leur formation la semaine prochaine dans notre émission. On reviendra à la musique. Merci Sébastien de nous avoir permis de parler de la radio.
Merci à vous.
Merci, c'est un truc qui nous tient à cœur. Je remercie Laurent Pascal et je suis très content de son retour. J'espère qu'il va durer ce retour, Laurent, dans notre émission, à la technique. Merci beaucoup, Laurent. Très heureux de te retrouver. On se quitte avec Pierre Berthet et Frédéric Lejinter, un morceau qui s'appelle Nos radios. Mais j'espère que vous allez continuer à écouter la radio longtemps et notamment à 17h30 pour Radio Esperanto avec nos amis Guy et Hubert. Allez, à la semaine prochaine, salut.